Bonjour à tous, bienvenue dans cette actualité du pape François. Nous commençons avec les paroles du Saint-Père avant la prière de l'Angélus. C'était donc dimanche dernier, dimanche 10 octobre 2021. Le pape qui est revenu sur l'évangile de Marc, où l'homme bon demande à Jésus ce qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle. Et le pape François a invité les fidèles à se demander quelle était leur véritable relation à Dieu et comment leur foi était nourrie. Et c'était donc avant de réciter la prière de l'Angélus devant les fidèles réunis place Saint-Pierre. Le pape François est donc revenu sur ce passage de l'Évangile, tiré de saint Marc, qui nous offre donc la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. L'Évangile de Marc parle en fait de lui comme d'un homme, sans mentionner son âge ou son nom, ce qui suggère que nous pouvons tous nous voir dans cet homme. Sa rencontre avec Jésus, en fait, nous permet de tester notre foi, a expliqué le Saint-Père. Remarquez les verbes qu'il utilise, a relevé le pape, « doit faire » et « avoir ». Voilà sa religiosité, un devoir, un faire pour obtenir. Je fais quelque chose pour obtenir ce dont j'ai besoin. Mais il s'agit d'une relation commerciale avec Dieu, un faire pour obtenir. La foi, au contraire, a précisé François, est une question de liberté et d'amour. Et le Saint-Père de poser ainsi cette question aux fidèles, qu'est-ce que la foi pour moi? S'il s'agit principalement d'un devoir ou d'une monnaie d'échange, nous faisons fausse route, a relevé le pape, car le salut est un don et non un devoir. Il est gratuit et ne peut être acheté. Jésus, dans ce passage de l'Évangile de Marc, offre le vrai visage de Dieu. C'est là que la foi naît et renaît, a encore précisé François, non pas d'un devoir, non pas d'une chose à faire, mais d'un regard d'amour à accueillir. C'est ainsi que la vie chrétienne devient belle, si elle ne se fonde pas sur nos propres capacités et plans, mais sur le regard de Dieu. Alors face à une foi fatiguée que nous souhaitons revigorer, le pape a ainsi invité à s'asseoir dans l'adoration, à nous laisser pardonner dans la confession, à nous tenir devant le crucifié. En bref, à nous laisser aimer par lui. La troisième étape de la rencontre du jeune homme riche et de Jésus est enfin son invitation au don et à la gratuité. Alors cette gratuité, a souligné le pape, est peut-être ce qui nous manque aussi. Nous faisons souvent le strict minimum, alors que Jésus nous invite à faire le maximum possible. Combien de fois nous contentons-nous de nos devoirs, les préceptes et quelques prières, alors que Dieu, qui nous donne la vie, nous demande des élans de vie. Le souverain pontife a ainsi invité les fidèles à une autre introspection. Où en est ma foi? Une foi sans don, sans gratuité, sans œuvre de charité finit par rendre triste, comme l'homme qui, bien que regardé avec amour par Jésus lui-même, est rentré chez lui attristé et le visage sombre, nous dit le texte. La Vierge Marie, qui a dit un oui total à Dieu et sans condition, a conclu le Saint-Père, peut nous aider à savourer la beauté de faire de la vie un don. Et dans cette actualité, nous en venons maintenant à l'audience générale. La liberté chrétienne, ferment universel de libération, voilà quel était le thème de la catéchèse du pape, c'était donc ce mercredi 13 octobre. S'appuyant sur la lettre de saint Paul aux Galates, le Saint-Père est revenu sur le sens de l'inculturation de l'Évangile, reconnaissant que des erreurs avaient parfois été commises en la matière. Dans la lettre aux Galates, saint Paul nous enseigne que la mort et la résurrection de Jésus nous libèrent de l'esclavage du péché et de la mort. Nous sommes libres parce que nous avons été libérés gratuitement, a souligné François. Nous, c'est-à-dire chaque peuple et chaque culture accueillis par le Christ. Alors pour entrer dans cette condition nouvelle de liberté, seule compte la foi qui opère par la charité, a rappelé le pape en reprenant les mots mêmes de l'apôtre. Le juif converti est accusé d'opportunisme pastoral par ses détracteurs, mais lui ne recherche pas la gloire qui vient des hommes, il veut être serviteur du Christ. Des cas de figure similaires se retrouvent aujourd'hui, a noté le Saint-Père, l'histoire se répète toujours. Paul vient montrer que la foi n'entre pas en conflit avec les cultures et les traditions. Elle n'implique pas d'y renoncer, mais seulement à ce qui, en elle, fait obstacle à la nouveauté et à la pureté de l'Évangile, a expliqué le Saint-Père. Je le cite, « La libération obtenue par le baptême, en effet, nous permet d'acquérir la pleine dignité d'enfant de Dieu, de sorte que, tout en restant fermement enracinés dans nos racines culturelles, en même temps, nous nous ouvrons à l'universalisme de la foi. » Fin de citation. La foi entre ainsi dans toutes les cultures, en reconnaît les germes de vérité présents et les développe, portant à leur plénitude le bien qu'elles contiennent. Dans cet appel à la liberté réside le véritable sens de l'inculturation de l'Évangile. Annoncer le Christ Sauveur en respectant ce qu'il y a de bon et vrai dans les cultures auxquelles elle s'adresse. Ce n'est pas facile, a reconnu le souverain pontife. Parfois, on n'a même pas renoncé à la violence pour faire prévaloir son propre point de vue. L'Église a ainsi été privée de la richesse de tant d'expressions locales qui portent en elles les traditions culturelles de peuples entiers. Mais c'est exactement le contraire de la liberté chrétienne, a regretté le pape. L'uniformité comme règle de vie n'est pas chrétien, a-t-il ajouté. L'unité, oui, l'uniformité, non. Saint Paul offre une vision de la liberté éclairée et enrichie par le mystère du Christ, qui, dans son incarnation, comme le rappelle le Concile Vatican II, s'est uni d'une certaine manière à tout homme, a souligné François. D'où le devoir de respecter l'origine culturelle de chaque personne, en la plaçant dans un espace de liberté qui ne soit limité d'aucune imposition dictée par une seule culture prédominante. L'Église a en elle-même une ouverture universelle à tous les peuples de tous les temps. C'est le sens de l'adjectif catholique. Car le Christ est né, mort et ressuscité pour tous, a insisté le successeur de Pierre. Pour autant, la liberté chrétienne n'est jamais définitivement acquise. Comme l'a précisé François, je le cite, « Si nous prétendions parler de la foi comme nous le faisions dans les siècles passés, nous risquerions de ne plus être compris par les nouvelles générations. La liberté de la foi chrétienne n'indique pas une vision statique de la vie et de la culture, mais une vision dynamique, y compris pour la tradition qui grandit, mais toujours avec la même nature. » Fin de citation. Alors dans un monde en perpétuelle transformation, elle est un don que nous devons garder et faire grandir jusqu'à sa plénitude. C'est la condition des pèlerins, a conclu le pape, libérés de l'esclavage pour marcher vers la plénitude de la liberté. Toujours dans cette actualité, cette fois nous en venons à Jean-Paul Ier. François, en effet, a autorisé, c'était ce mercredi 13 octobre 2021, la Congrégation pour les causes des saints a promulgué le décret sur la guérison miraculeuse attribuée à l'intercession de Jean-Paul Ier, ce qui ouvre la voie à sa béatification. Alors, la reconnaissance d'un miracle était nécessaire pour que cette étape soit franchie. C'est désormais chose faite. Alors, en recevant en audience mercredi matin le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le pape François a autorisé la promulgation d'un décret reconnaissant un miracle attribué à l'intercession de Jean-Paul Ier. Il s'agit de la guérison d'une fillette de 11 ans à Buenos Aires le 23 juillet 2011 qui souffrait d'une encéphalopathie inflammatoire aiguë sévère, d'une maladie épileptique réfractaire maligne, d'un choc septique et qui était alors en fin de vie. Un tableau clinique très grave, avec également de nombreuses crises épileptiques quotidiennes et une bronchopneumonie. Alors l'initiative d'invoquer le pape Luciani avait été prise par un de ses fidèles dévots, le curé de la paroisse à laquelle appartenait l'hôpital. La date de la béatification du souverain pontife italien n'est pas encore connue, elle sera communiquée par François. Alors né le 17 octobre 1912 à Forno di Canale, aujourd'hui Canale d'Agordo, dans la province de Belluno, en Vénétie, et mort le 28 septembre 1978 au Vatican, Albino Luciani a été pape pendant seulement 33 jours, l'un des pontificats les plus courts de l'histoire. Il était le fils d'un ouvrier socialiste qui avait longtemps travaillé comme émigré en Suisse. Dans la note que son père lui a écrite pour lui donner l'autorisation d'entrer au séminaire, on peut lire « J'espère que lorsque tu seras prêtre, tu seras du côté des pauvres, car le Christ était de leur côté. » Des mots qu'Albino Luciano mettra en pratique tout au long de sa vie. Il a été ordonné prêtre en 1935, nommé évêque de Vittorio Veneto en 1958, immédiatement après l'élection de Jean XXIII, qu'il avait connu comme patriarche de Venise. Luciani a participé à l'ensemble du Concile œcuménique Vatican II et appliqué ses directives avec enthousiasme. Après la mort de Paul VI au début du mois, il est élu le 26 août 1978 lors d'un conclave qui dure une journée. Jean-Paul Ier meurt subitement dans la nuit du 28 septembre 1978. Il est retrouvé sans vie par la religieuse qui apportait du café dans sa chambre tous les matins. En quelques semaines de pontificat, le pape Luciani est entré dans le cœur de millions de personnes pour sa simplicité, son humilité, ses paroles de défense des plus petits et pour son sourire évangélique, première marque de la bonté de Dieu agissant en lui. La réputation de sainteté de Jean-Paul Ier s'est répandue très rapidement. Beaucoup de fidèles l'ont prié et le prient encore, notamment en se rendant sur sa tombe, située dans la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre. De nombreuses personnes, et même tout un épiscopat, celui du Brésil, ont demandé l'ouverture de son procès en béatification, qui arrive désormais à son terme. À l'occasion du 90e anniversaire de l'inauguration de la célèbre statue sur le mont Corcovado, le pape a expliqué dans un message que personne ne doit rester les bras croisés, mais plutôt ouvrir les bras à tous. Oui, tout le monde le connaît, ou l'a vu au moins en image, en photo, le Christ rédempteur qui surplombe Rio de Janeiro avec ses bras ouverts est un appel à la réconciliation, une invitation à la fraternité. Voilà ce qu'a souligné le pape dans un message signé par le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, est adressé à l'archevêque de Rio, le cardinal Orani Joao Tempesta, pour les 90 ans de l'inauguration de la statue. Une fraternité, peut-on lire, qui devrait s'étendre à la ville et au pays tout entier, afin de former une communauté où personne ne se sent seul, indésirable, rejeté, ignoré ou oublié, et où chacun s'engage pour un monde plus juste, plus solidaire et plus heureux. François invite ainsi tous les Brésiliens à construire la fraternité, quel que soit leur niveau d'éducation ou de richesse. Personne ne doit rester les bras croisés, mais plutôt ouvrir ses bras à tous, comme le fait le Rédempteur. Alors pour y parvenir, un dialogue constructif est essentiel, car entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, il y a toujours une option, le dialogue. Le dialogue entre les générations, le dialogue dans le peuple, car tous nous sommes peuple, écrit le Saint-Père, en reprenant les mots de son encyclique Fratelli Tutti. D'où cette invitation à l'accueil inconditionnel, à la manière du Christ, qui vous invite à vous rapprocher de lui, car en étant proche de lui, vous serez proches les uns des autres. Le successeur de Pierre conclut son message en confiant le peuple brésilien à l'intercession de sa sainte patronne, Notre-Dame d'Aparecida. Voilà, chers amis auditeurs, et pour terminer cette actualité du pape François de ce jour, je vous propose d'écouter une méditation. Il s'agit du père jésuite Martin Baati qui nous propose donc cette méditation avec les lectures du 28e dimanche du temps ordinaire.
Mes chers frères et sœurs, les lectures de ce 28e dimanche du temps ordinaire nous invitent à méditer sur les exigences requises pour devenir disciples de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, un drame nous est présenté qui donne chair à l'enseignement de Jésus. Un jeune homme riche s'approche de lui et demande ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Il reçoit la réponse de base, à savoir qu'il doit observer les commandements. Cependant, le jeune homme, en tant que bon juif pratiquant, il observe déjà les commandements, mais sent intérieurement que quelque chose manque encore dans sa vie. Jésus pressent aussi sa faim et lui lance un défi radical. Il doit se débarrasser de son attachement à la richesse où se trouve sa sécurité et son statut social et se confier entièrement à Dieu en le suivant. Le jeune homme devient sombre et s'en alla tout triste. Dans les évangiles, Jésus enseigne perpétuellement que la richesse peut devenir un obstacle pour entrer dans le royaume des cieux. L'histoire du jeune homme riche dans l'évangile d'aujourd'hui en est une illustration parfaite. Le jeune homme riche de l'évangile pensait que le vrai trésor était dans la richesse. La sagesse de Jésus est que la richesse ne donne pas le bonheur final. Notre plus grand trésor est à l'intérieur de nous-mêmes. L'homme créé à l'image de Dieu, par amour et pour l'amour. Le jeune homme riche est invité à partager le bien matériel qui le retienne et l'empêche d'être un disciple du Christ. Ainsi, Jésus nous invite tous et chacun au détachement et à la liberté à l'égard des biens matériels. Les détachements peuvent être dans divers domaines de la vie. Abraham a été appelé à quitter son pays, Pierre ses filets, Matthieu son bureau de douane, Élisée sa femme, Nathanaël sa retraite. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel se vivent violence, exclusion, exploitation, le Christ nous invite à revoir nos attitudes et notre comportement personnel. Comme au jeune homme riche, Jésus dit à chacun de nous, dans l'aujourd'hui de notre histoire, « Va, vends ce que tu as, puis viens, suis-moi. » Qu'avons-nous? Diverses richesses, évidemment, positives et négatives. Richesses matérielles, diverses sécurités, mais aussi égoïsme, narcissisme cupidité, convoitise, violence, etc. L'invitation de Jésus au dépassement, à la vente de ses attitudes, culmine dans une libération intérieure. L'histoire du jeune homme riche nous rappelle qu'on ne peut pas se mettre à la suite du Seigneur en demeurant encombré de lourds fardeaux. Remarquez aussi que Jésus ne met pas l'accent sur ce qu'on doit abandonner, mais plutôt sur le bonheur que l'on découvre à le faire. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, demandons au Seigneur de nous accorder sa grâce libératrice afin que nous considérions les choses matérielles qui nous attirent, nous encombrent et nous empêchent de les suivre comme des balayures. Que la Vierge Marie nous obtienne cette grâce. Amen.
Voilà, chers amis auditeurs, c'est donc sur cette méditation du Père jésuite Martin Bahati, avec les lectures de dimanche dernier, tirées de l'Évangile selon saint Marc, que s'achève cette actualité du Pape François. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, 14h. Au revoir à tous.